Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
Où sont les nouveaux acteurs du ferroviaire alors que de plus en plus de Français veulent prendre le train pour se déplacer? Les nouvelles compagnies privées semblent avoir du mal à arriver sur les rails. Alors les nouveaux trains sont-ils déjà en retard? On en parle tout de suite dans ce nouveau numéro d'En route pour demain.
En route pour demain, présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech & Co.
Plus de 24 millions de Français ont pris le train cet été pour partir en vacances, et alors que la demande se fait de plus en plus forte, eh bien les nouvelles compagnies qui souhaitaient se lancer, notamment dans le train à grande vitesse, ne sont toujours pas là. Olivier Chiche-Portige, bonjour.
Bonjour.
Journaliste à BFM Business, spécialiste du ferroviaire. Alors les concurrents de la SNCF dans les trains à grande vitesse, eh bien ils se comptent encore sur les doigts de la main aujourd'hui.
Ouais, les doigts de la main, t'es même un peu optimiste, Pauline, parce qu'effectivement, à ce jour, il n'y a que deux acteurs qui ferraillent dans la ligne à grande vitesse contre la SNCF. Le plus ancien, qu'on commence déjà un peu à connaître, c'est Trenitalia, qui s'est lancé fin 2021 sur l'axe Paris-Lyon-Milan, avec ses fameuses flèches rouges, des trains à grande vitesse de Hitachi. Il dit avoir transporté 1 million de personnes sur l'année écoulée, ce qui est un résultat plutôt honorable, et bénéficie d'une très bonne image. Néanmoins, c'est vrai que ces 5 allers-retours entre Paris et Lyon ont un peu de mal à faire le poids par rapport à la force de la SNCF, qui propose plus de 20 rotations par jour vers Lyon. Et puis par ailleurs, tu sais, l'éboulement qu'il y a eu en Savoie dans la vallée de la Maurienne empêche Trenitalia aujourd'hui de rejoindre Milan depuis Paris, donc ça bride encore un peu plus son développement en France. Le deuxième acteur, un peu plus récent, c'est la Renfe, l'espagnol, qui s'est lancé en juillet dernier sur Marseille, Barcelone et Lyon, Madrid. Eux, ils ont une stratégie qui est beaucoup plus agressive sur avec des billets à prix cassé pour le moment, pour essayer de s'imposer sur le marché. C'est un peu trop tôt pour faire un bilan, mais néanmoins, ils sont là et en force.
Mais ça, ce sont des compagnies, finalement, des legacy, comme on dirait, des compagnies historiques.
Absolument, Pauline. C'est vrai que le point commun de ces compagnies, c'est que c'est finalement des filiales de grands opérateurs européens, un peu le SNCF italien, le SNCF espagnol. Ils ont donc beaucoup de moyens d'investissement, beaucoup de moyens d'exploitation. Surtout, ils ont des trains qui peuvent faire rouler en France, ce qui pose un problème pour les autres acteurs. Alors, finalement, c'est quoi les grands freins aujourd'hui qui provoquent cette atonie de la concurrence et qui finalement protègent le monopole de la SNCF? Au-delà des complications réglementaires et techniques qui sont très lourdes et qui déjà rallongent beaucoup les délais, finalement, ce qui est dénoncé par la plupart des acteurs, c'est le coût d'accès, c'est-à-dire, tu sais, les fameux péages que doivent payer chaque opérateur pour pouvoir rouler sur les voies de la SNCF, les péages qui sont payés à SNCF Réseau. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, ces péages font partie des plus chers d'Europe. Et pas de chance pour ces nouveaux acteurs, les péages vont augmenter de 7% l'année prochaine.
Oui, ça va pas être très simple du coup de venir concurrencer à la SNCF sur les rails français.
Ça va coûter très cher. Et d'ailleurs, quels sont ces acteurs qui essaient de se lancer en France? On a Railcoop, on en a beaucoup parlé. C'est un acteur qui a essayé d'avoir un modèle économique un peu original, de coopérative, pour relancer en tout cas la ligne entre Lyon et Bordeaux. Le problème, c'est que ce modèle économique n'a pas fait ses preuves. Aujourd'hui, Railcoop est en redressement judiciaire. Il y a le train qu'on reçoit aujourd'hui, effectivement, qui est un projet qui est beaucoup plus avancé, qui est beaucoup plus solide, mais force est de constater quand même que ça prend du retard. Au-delà de ces freins-là, le principal aussi, au-delà des frais et des péages, c'est l'absence totale de marché de l'occasion du train à grande vitesse.
Oui, on trouve pas de train finalement.
On trouve pas de train. Ça bouleverse complètement les modèles économiques de ces nouveaux acteurs qui essaient de se lancer. Ça rallonge le temps. Et surtout, ces acteurs, en tout cas ceux qui tentent de percer sur le marché français, qui partent de zéro finalement, doivent se tourner vers des trains neufs.
Ce qui est un coût totalement différent.
C'est très cher. C'est même des investissements qui sont colossaux, qui encore une fois rebattent les cartes de leur modèle économique, et puis surtout ça prend énormément de temps à arriver en termes de livraison, tout simplement.
Merci beaucoup Olivier Chiche-Portige, tu restes avec moi en plateau, on va tout de suite accueillir Alain Gétraud du train qui justement va nous expliquer où en est le lancement de sa toute nouvelle compagnie ferroviaire.
BFM Business et Tech & Co présente En route pour demain, l'invité.
Nous accueillons donc Alain Gétraud dans Route pour demain. Bonjour Alain.
Bonjour Pauline.
Directeur général du train. Alors le train, nouvelle compagnie ferroviaire à grande vitesse. Juste, vous pouvez nous replanter le décor. Dans quelle région vous voulez vous lancer? Avec quel type de matériel? Sur quel type d'offres?
Alors effectivement, le train, c'est une nouvelle compagnie ferroviaire, plutôt à dominante grande vitesse. Nous, on vise un marché qui est complémentaire de l'opérateur historique en France. On vise un marché qui est moins ce qu'on appelle le radial, c'est-à-dire depuis et vers Paris, mais un marché de région à région, entre métropoles, entre grandes villes, mais aussi entre villes intermédiaires. Et on a choisi le Grand Ouest pour démarrer. C'est une région attractive, il y a énormément d'intensité économique, démographique sur cette région. Il y a besoin de déplacement, il y a de superbes infrastructures, deux lignes nouvelles, une ligne à grande vitesse Sud-Europe Atlantique et une ligne à grande vitesse Bretagne-Pays de Loire, donc c'est des enjeux stratégiques pour qu'on démarre.
Olivier nous traçait un portrait finalement assez, allez, mi-figue-mi-raisin, je ne vais pas être totalement négative, de l'arrivée des nouvelles compagnies avec beaucoup de freins. On vous avait reçu en janvier, vous nous disiez que vous étiez en train de défricher justement ce marché. Alors vous en êtes où du défrichement? Est-ce que l'environnement est devenu plus favorable pour vous?
Alors j'ai entendu l'introduction d'Olivier, c'est presque noir du coup. Alors c'est un univers compliqué de toute façon, on n'est pas surpris par le chemin, par le parcours qu'on découvre, en tout cas qu'on parcourt. Il faut beaucoup d'expertise, il faut beaucoup de moyens. Effectivement, l'année dernière, on était plutôt dans une phase d'agrégation des moyens. On détient d'ailleurs notre licence d'entreprise ferroviaire depuis la fin de l'année dernière. Aujourd'hui, on a beaucoup avancé, vous l'avez bien dit, on est une compagnie, on n'est pas seulement un projet, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'intensité, beaucoup d'intention autour de cette ouverture du marché ferroviaire, mais le train est bien une compagnie aujourd'hui. Aujourd'hui, on a levé tous les verrous, on a relevé, j'ai envie de dire, presque tous les défis qu'il faut pour démarrer sur le marché. Donc, on s'attelle maintenant à des suggestions plutôt industrielles ou de préparation de l'exercice d'exploitation.
Est-ce que vous avez senti dans cette année 2023, on a beaucoup parlé du ferroviaire, hein, on a senti le gouvernement qui poussait beaucoup aussi pour que justement on prenne plus le train, il y a cette histoire de passe à 49€ dans les tuyaux. Est-ce que vous sentez que justement l'environnement a été plus propice et que ça vous a permis vous d'accélérer dans votre projet et de vous dire que vous passiez de justement un projet à une compagnie?
Alors ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup d'envie autour du ferroviaire, l'envie déjà des clients, des passagers, des usagers pour les transports du quotidien. Et donc le train a le vent en poupe. Le train, pas la compagnie le train, mais le moyen de transport bien sûr. Et ça, c'est majeur comme suggestion, puisqu'il faut en profiter, il faut profiter de cet engouement pour le train, nos voyageurs, pour lancer des offres. Et il y a besoin d'offres, il y a besoin d'un choc d'offres, on l'entend beaucoup, pour décarboner les transports et puis pour réussir ce transfert modal vers le train. Donc faciliter, je ne sais pas si ça a facilité, mais en tout cas, il y a une très forte impulsion des pouvoirs publics et des institutions. Et forcément, ça crée un climat qui est quand même plutôt favorable.
Concrètement, vous en êtes où aujourd'hui? Quand est-ce qu'on verra des trains le train? Quand est-ce qu'on pourra acheter des billets chez vous pour voyager dans le Grand Ouest, dans vos wagons?
Alors, il va falloir attendre encore un peu, j'en suis navré. Les temps du ferroviaire sont longs parce qu'il y a des temps industriels et de capitalisation qui peuvent être de forte intensité. Donc aujourd'hui, on s'apprête à rentrer dans une phase industrielle. L'année prochaine sera l'année de démarrage de la construction de nos trains. Vous l'avez dit en introduction, Olivier, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de marché de l'occasion. Donc difficile, comme dans l'aérien, de se fournir sur du matériel déjà existant. Il faut passer par des étapes de construction, de commande bien sûr, et de construction de ce nouveau matériel. C'est ce qu'on a fait. On a commandé 10 rames auprès d'un industriel. On a un accord industriel, avec cet industriel.
C'est le constructeur espagnol Talgo.
Voilà, c'est le constructeur espagnol Talgo. Et donc, on devrait débuter le démarrage de la construction l'année prochaine.
Justement, vous parliez tout à l'heure de choc d'offres et c'est vrai que j'évoquais le fait que les modèles économiques d'acteurs comme le vôtre ont été un peu bouleversés par le fait de devoir acheter des trains neufs au lieu de trains d'occasion. Vous envisagiez un positionnement quand même qui était assez, on va dire, agressif, en tout cas avec une offre qui puisse répondre vraiment à une demande assez spécifique. Est-ce que le fait d'acheter des trains neufs va brider un peu votre capacité commerciale d'être agressif?
Vous savez, en étant churchillien, il faut faire d'une difficulté une opportunité. C'est un modèle différent. C'est vrai que l'avantage du matériel d'occasion nous aurait permis d'être présent beaucoup plus tôt. En passant par du matériel neuf, il va falloir attendre le temps de la construction et c'est des assets plus lourds à financer. Mais aujourd'hui, on a réalisé ces travaux. Il faut maintenant en faire une opportunité. C'est du matériel neuf, donc il va durer plus longtemps. Et surtout, l'avantage, c'est qu'on a pu le designer au standard le train avec une nouvelle expérience voyageur complètement revisitée.
Alors justement, on aimerait bien savoir quelle est cette expérience voyageur que vous voulez mettre en place. En quoi elle va se différencier de ce que peut proposer la SNCF, bien sûr, ou les autres acteurs qui sont arrivés en France, hein. La Renfe, ou en tout cas plus Trenitalia, qui lui s'est positionné beaucoup avec des différentes classes, des choses assez intéressantes. Qu'est-ce que vous allez faire ?
Alors, je vais pas tout vous dévoiler aujourd'hui. Forcément, je regarderai un peu pour le lancement commercial, mais je peux vous donner des grands marqueurs. Ce qui est intéressant, déjà, c'est que nous, on va pas vers Paris. Donc, on n'a pas besoin de la même capacité. On n'est pas sur des trains capacitaires. On est plutôt sur un modèle de fréquence. Donc, il y aura de l'espace dans nos trains. Le modèle Talgo qu'on a choisi est un modèle très accessible d'un seul niveau. Et puis, on n'a pas souhaité rentrer dans de la gadgetisation. Par contre, on a souhaité des suggestions fortes liées à notre clientèle. Notre clientèle, c'est plutôt une clientèle, ce qu'on appelle loisir. Alors, c'est un segment assez large, hein, assez lâche. Hein, ça comprend les gens qui partent en vacances en week-end, les télétravailleurs, les grands-parents qui vont garder leurs petits-enfants. Mais ça veut dire que c'est un secteur où il y a moins de professionnels, il y en a. Et donc, on a designé nos espaces pour ces deux types de populations, mais majoritairement loisir. C'est un train qui va être à esprit loisir. Il y a de la place.
Il y a des prises USB.
Il y a un Wi-Fi boosté, parce que c'est quand même un sujet d'importance majeure. Et il y a aussi des places pour des vélos. Ça sera une première. 40 places vélo sur un train grande vitesse. Jusqu'à présent, on avait des places vélo dans le matériel régional, mais finalement, peu sur le matériel grande vitesse. Et bien, avec nous, vous pourrez prendre votre vélo pour aller de Bordeaux à Rennes ou de Bordeaux à Nantes. Et ça va vraiment nous différencier. Bon, il y a encore plein de suggestions, notamment sur l'IT, sur le système d'inventaire, de réservation. On a visé à simplifier pour avoir une expérience voyageur vraiment des plus usuelles, des plus simples. C'est beaucoup de travail, et donc ça fera vraiment partie intégrante de l'offre Le Train.
Justement, vous parlez de l'expérience voyageur. Vous organisez un colloque le 7 décembre, si je ne me trompe pas, à Nantes, justement, sur ce côté l'expérience voyageur et comment remettre le voyageur au centre du train. Quand vous dites simplifier l'acte d'achat, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir, vous allez avoir votre propre appli, on va pouvoir vous acheter partout, chez Trainline, sur les sites des voyagistes. Enfin, comment vous allez faire justement pour que ce soit simple d'acheter un billet de train?
Oui, alors je vous remercie de citer le 7 décembre. J'y reviendrai peut-être un petit peu si vous me le permettez, et pourquoi Le Train organise ce type de colloque. Mais sur la simplification de l'acte d'achat, effectivement, on disposera de notre propre plateforme et de notre propre système de distribution. Il faut être visible, donc on souhaite être distribué bien sûr par d'autres plateformes. Trainline, évidemment, c'est un acteur incontournable du marché, donc on a vocation à être distribué par Trainline. Nous, on aimerait également être distribué par les opérateurs en place, hein, par les opérateurs historiques. Donc, on milite et on travaille pour être distribué très largement. On sera distribué également par les plateformes régionales. Aujourd'hui, les autorités organisatrices, hein, les régions, elles travaillent sur des outils de distribution. On sera distribué par les outils de distribution des régions qu'on traverse.
Donc, ce qui vend aujourd'hui les billets des TER pourront aussi demain vendre des billets Le Train. C'est ça votre objectif ?
Des billets Le Train, exactement. Et je sais qu'ils aspirent eux aussi également à distribuer une gamme de produits assez large.
Et est-ce que vous allez appliquer la même méthode, on va dire, de tarification de la SNCF ou des compagnies aériennes, hein, vous voyez où je veux en venir, c'est-à-dire
le fameux lean management.
Le lean management, l'offre et la demande, le fait de faire moduler les prix en fonction de plein de critères différents que sont la date, le remplissage, la période, ou est-ce que vous seriez sur une politique de prix fixe?
Alors, je mentirais si je disais qu'on sera sur une politique de prix complètement fixe. Ça n'existe pas. Ça n'existe dans aucun mode. Et d'ailleurs, ça serait même une erreur stratégique et commerciale. Donc, en toute honnêteté, non, on n'est pas sur un prix complètement fixe. Par contre, on est sur une stabilité des prix. Voilà. Vous aurez des points de référence forts en fonction si vous voyagez le vendredi, en semaine, sur des heures plus ou moins chargées. Vous n'aurez pas une très, très grande fluctuation des prix. Il y aura des fluctuations des prix, mais elle sera compréhensible. On travaille pour qu'elle donne la sensation d'être juste et lisible. C'est des paramètres très importants. Voilà, aujourd'hui, bien sûr, le yield management existe, mais ce qui est important, c'est le manager avec de l'humain, c'est-à-dire qu'on puisse le réguler, on puisse se dire on n'ira pas plus loin que tel niveau de prix. Donc, ce qu'on vise, et c'est important, vous l'avez cité pour Renfe, c'est d'avoir des prix attractifs. Donc, on va être dans une stratégie de prix, si ce n'est de casse des prix, mais d'avoir le prix le plus juste possible et le plus attractif possible. Ça aussi, c'est un sujet sur lequel on a énormément travaillé.
Vous parliez tout à l'heure aussi du côté, justement, la fréquence des trains. Aujourd'hui, les clients, c'est quoi le point le plus important pour eux? Vous sentez la chose qu'il faut avoir, c'est réserver facilement un billet de train, c'est avoir énormément d'horaires disponibles, c'est le prix. C'est quoi la clé pour se différencier et que les clients vous demandent en premier lieu?
Oui, il faut que vous soyez visible, il faut que vous ayez des horaires à proposer. Si vous n'avez pas une surface commerciale suffisamment importante, si vous n'avez pas un service suffisamment visible, suffisamment qui offre des possibilités, vous risquez de ne pas réussir finalement l'adhésion du public. C'est valable même pour un mode qui n'offrirait pas assez de perspectives, de possibilités, et risquerait d'être délaissé pour le choix d'un autre mode. Donc c'est important effectivement d'avoir de la fréquence, donc on a travaillé ces fréquences. elles sont plus ou moins importantes en fonction des origines et des destinations. Si vous êtes en loisir, vous pouvez imaginer que 5 correspondances par jour, c'est déjà un nombre important. Par contre, si vous êtes un commuteur, je prends un exemple très simple, par exemple sur du Bordeaux-Angoulême, vous allez avoir envie de plus de possibilités.
Oui, d'avoir un train par heure.
Exactement.
Ou... C'est moi du RER à grande vitesse quelque part ou...
Alors, voilà, on n'en sera pas encore à du cadencé, mais par contre, là, on a dopé l'offre sur ce type de segment où il y a énormément de fréquences, plus de 10 fréquences par jour.
Il y a des bonnes pratiques à l'étranger parce qu'on voit les compagnies étrangères qui arrivent chez nous. On voit aussi la SNCF qui va, par exemple, en Espagne, voilà, lancer Ouigo. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques sur ces marchés que vous avez beaucoup regardés et qu'il faudrait importer en France aujourd'hui pour dynamiser ce marché du ferroviaire ?
Alors, je vous remercie de la question parce qu'effectivement, on scrute et on observe et on benchmark énormément ce qui s'est fait à l'étranger, notamment juste autour de nous, hein, en Italie et en Espagne, qui sont des éprouvettes et des terreaux intéressants à regarder sur les l'émergence et l'ouverture de la concurrence et la dynamique de l'offre. Et j'allais dire, le premier intérêt, c'est d'arriver à se convaincre que tout ça est possible et que même si le ferroviaire, c'est compliqué, c'est cher, ça peut être long, en fait, les pays voisins ont exactement les mêmes contraintes. Hein. On est régis tous par le droit européen. Alors, il y a des spécificités, bien sûr, à chaque pays, mais tout ça est un cadre harmonisé européen. Et l'Italie a très bien réussi avec un nouvel acteur, Italo NTV. L'Espagne, aujourd'hui, est sûrement le pays le plus dynamique, hein, puisqu'il y a Renfe, une offre low cost Avlo, Ouigo Spain, un nouvel arrivant qui est Iryu Ilsa, et on annonce peut-être encore un autre opérateur. Ce qu'on retient de ces pays-là, c'est que la part du ferroviaire a très largement augmenté et que cette compétition, elle n'a pas dégradé ni les taux de marge des opérateurs existants ni le remplissage de leur train, c'est l'inverse. Par effet d'induction, les opérateurs en place ont eu plus de fréquentation. Et bien sûr, il y a eu une compétition sur les prix, mais ça a boosté les offres de manière globale. Donc cet effet d'induction, il est bénéfique, bien sûr, pour le ferroviaire. Il est bénéfique pour dynamiser le choc ferroviaire, pour réussir ce choc ferroviaire. Et je trouve que la France devrait s'inspirer enfin et comprendre qu'il est temps pour nous.
Donc plus de compagnies, ça veut dire demain, finalement, plus de voyages en train. Merci beaucoup, Alain Gétraud. Donc 7 décembre, c'est ça, le colloque du train sur l'expérience voyageur.
Oui, effectivement, c'est un moment important. C'est pas parce qu'on est une nouvelle compagnie qu'on n'a pas plaisir à inviter l'ensemble de l'écosystème de la mobilité. On a prévu un plateau assez large avec des acteurs de l'aérien, des acteurs de l'IT, des acteurs de la mobilité, mais d'autres mobilités pour s'enrichir. Et puis, nous, on souhaitait sortir du « c'est difficile, c'est compliqué, quels sont les freins ?» Les freins, on peut les lever, preuve en est. Par contre, ce qui est important, c'est ce qu'attendent nos voyageurs. Donc voilà, pour la première fois et à Nantes, dans les territoires, on va consacrer ce colloque vraiment à l'expérience voyageur, à ce qu'attendent les voyageurs.
Et bien donc, ce rendez-vous est pris 7 décembre à Nantes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Alain Gétraud, directeur général du train, merci beaucoup.
Merci.
Olivier Chichporti, journaliste BFM Business. Voilà, ce nouveau numéro d'En route pour demain, c'est déjà fini. Merci à tous de nous avoir suivis le week-end sur BFM Business et puis en multidiffusion sur Tech & Co tout au long de la semaine. Prenez soin de vous et à très vite.
En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co.